aussi, c'est que c'est cheesy.
System Disque, le vendredi de 22h à 23h.
France Inter et le manège Maubeuge-Mons présentent le festival VIA jusqu'au 14 mars. Pour mettre le cap vers le Grand Nord, plongez au cœur du théâtre actuel et dansez auprès de machines infernales. Retrouvez le festival VIA dans Studio Théâtre de Laure Adler, vendredi 5 mars à minuit. France Inter.
La différence.
Tout juste 15h04, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis sur France Inter. Bonjour Daniel.
Bonjour Daniel et ton équipe et tous les auditeurs. Moi je ne comprends pas du tout. Personne ne trouve que le bilan politique et médiatique de cette tempête est scandaleux. Pourtant, les bulletins d'alerte ont été nationalement très déficients. Ce n'est pas du tout une alerte au niveau de l'alerte enlèvement qu'on nous serine toutes les heures. Non, c'était alerte orange ou rouge. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la sécurité des personnes, des animaux qu'on oublie tout le temps, des biens? C'est seulement après qu'on nous dit que la violence extrême de cette tempête est due à trois facteurs conjugués. Mais on les connaissait à l'avance. Les zones d'habitation derrière des digues fragiles ou bien qui sont supprimées par les agriculteurs. Un coefficient de marée exceptionnel mais prévu. La force du vent exceptionnelle mais annoncée. C'est comme pour la canicule. Les médias et les politiques, ils déplorent, ils s'inclinent devant la douleur. Ils s'anesthésient par la compassion officielle pour éviter la révolte devant le manque de prévision. Et pendant ce temps, le monde du politique en campagne électorale fraternise. Oh, mais ils pensent très fort aux bénéfices de la reconstruction. Je pense que c'est en grandeur nature ce que signifie la planification politique de l'échec du sommet de Copenhague sur les désordres climatiques. Il faut qu'on continue comme ça, sans rien dire, en remerciant. Au revoir Daniel, c'est Gisèle de Montargis.
Salut Daniel, bonjour à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, et à tous les AMG, modestes mais surtout géniaux. Attention, auditeurs du Lot, prochain repère, mardi 2 mars à 20h30 à Cahors. A bientôt et bonne lutte.
Ah, ce Frédéric Lordon, c'est un homme selon mon cœur. Non mais quel plaisir, c'est un pédagogue, et en même temps il a vachement d'humanité, quoi. Il a une façon de donner les choses qui sont à la fois intelligentes et souriantes. Quelle bouffée d'utopie, quoi, mais en même temps quelle bouffée d'espérance et de réflexion humaine, citoyenne. Quand on voit ce à quoi on est confronté, quoi, ce qu'on vit quotidiennement, c'est-à-dire les injonctions, le bâton du sarkozysme, de ce mélange de noblesse et d'extrême droite, on entend un type comme Lordon, on a envie de descendre à la rue et de se dire « Allez, putain, on y va, hein. C'est fini, hein. Ça suffit, quoi. » Voilà, mais vraiment, merci à toute l'équipe pour cette émission, quoi. C'était vraiment excellent, quoi.
Bonsoir, les amis. De là-bas si j'y suis. Je viens d'écouter l'émission de Frédéric Lordon, il est absolument remarquable. Toutefois, je voudrais suggérer quelque chose. Il nous laisse sur notre faim, en ce sens que j'aurais bien aimé qu'il nous dise quelle est, selon lui, la stratégie du contre-choc. Il a parlé d'un contre-choc absolument nécessaire et il a tout à fait raison, mais quelle est cette stratégie du contre-choc qu'il va falloir mettre en place pour supprimer ce choc de la finance internationale destructrice. Voilà, alors j'espère que ce sera l'objet d'une prochaine émission, mais encore une fois, bravo et merci à Daniel Mermet et à ce grand économiste qu'est Lordon. Au revoir.
Ah, comme ça fait du bien, un petit coup de Lordon, surtout Daniel, mets-nous-le régulièrement. Et puis, bah, Madame Lagarde, là, qui se réjouit de la privatisation de la Poste, il faudrait qu'elle aille faire des stages, où j'ai même mieux Lordon président. Allez, on y va, Daniel, bon courage.
Oui, bonjour, j'ai écouté l'émission, là, c'est José-Louis Perpignan. Moi, je suis entièrement d'accord avec Monsieur Lordon, et je dis Lordon président, Lordon président.
Bonjour, c'est un message pour tous les AMG des Basses-Alpes. Le repère de Château-Arnoux aura lieu mardi 2 mars, de 18 à 20h, toujours au café Le Stendhal, et on parlera du cinéma et de son évolution. À bientôt.
Je voudrais apporter ma contribution à la connaissance de Botul, philosophe trop méconnu, et revenir sur l'erreur de BHL. Je ne sais pas quelles ont été ses sources, mais il a été trompé par la mention des conférences au néo-kantien qu'il a interprété comme une critique radicale de Kant, alors que l'apport de Botul à la redécouverte du kantisme est beaucoup plus complexe. En effet, Botul, qui s'est principalement intéressé à la morale kantienne, en quelque sorte humanisé. Il apporte en effet une nuance à l'une des formulations de la loi morale de Kant, qui devient sous sa plume « agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse devenir une loi universelle, ou presque ». Et cette nuance permet d'en finir avec la célèbre critique émise par Peggy, suivant laquelle si Kant a les mains propres, c'est parce qu'il n'a pas de mains. On peut dire que Botul, d'une certaine façon, redonne des mains à Kant. Intervention qui, hélas, a été sans lendemain. Merci.
Voilà, c'est clair et c'est notre sujet du jour, j'attends très bien. On va parler de Botul, de Jean-Baptiste Botul, avec les botuliens, avec ceux qui sont les animateurs, les chercheurs, les créateurs de cette recherche qui a donné, vous le savez, ça n'a pas pu vous échapper, comment appeler ça ? C'est tellement indigne, c'est tellement nauséabond, c'est tellement puant, cette agression contre notre philosophe national. Je veux parler évidemment de Bernard-Henri Lévy, qui souffre de ce lynchage absolument éhonté, scandaleux, suite à cette minuscule petite erreur qu'il a prise du bon côté et qui tourne à l'émeute de cette meute de hyènes qui le harcèle, c'est épouvantable. Alors, on ne va pas parler de ça du tout. Aujourd'hui, on va parler de Botul. Botul existe-t-il ? Parce que Bernard-Henri Lévy a affirmé que Botul n'existe pas. Là, c'est peut-être aussi un petit peu hâtif. A-t-il des preuves de l'inexistence de Botul ? Donc, notre thème du jour, c'est « Botul n'existe pas, je l'ai rencontré ». Je voudrais parler aussi de Frédéric Lordon. L'émission d'hier, l'entretien avec Frédéric Lordon, vous a soulevé des vagues d'enthousiasme parmi les auditeurs et auditrices aussi de la Basse et J'y suis. Certaines n'ont pas manqué de faire remarquer que ce que Frédéric Lordon appelle de ses voeux, c'est-à-dire la fermeture de la bourse, eh bien, il y a eu des précédents. On nous a fait observer qu'il y avait des précédents. Bernard Maris avait déjà eu cette idée. Jacques Nikonoff avait déjà eu cette idée. Bref, il y a des précédents, ce qui nous renforce dans l'idée que l'idée de Frédéric Lordon est la bonne. Alors, vous allez avoir sur le site la-bas.org, la version longue de cet entretien que vous avez pu entendre hier et qui était monté par Coy Nguyen. Alors donc, Botul dans un instant, Lordon sur là-bas.org, et un troisième point, vous vous souvenez de Salima, cette jeune femme de 18 ans qui a été arrêtée le 19 janvier à Clermont-Ferrand. Sa sœur, elle a une sœur jumelle, Salma, qui a échappé à l'arrestation parce qu'elle était absente ce jour-là. Elle est hospitalisée depuis, et vous vous souvenez comment Salima a passé 15 jours au centre de rétention de Lyon, et finalement elle a été expulsée à Casablanca, au Maroc, le 4 février, et ce, malgré une mobilisation formidable des gens de la région, de Clermont-Ferrand, et de ses professeurs, et des professeurs des deux jeunes filles jumelles, Salima et Salma, du réseau Éducation sans frontières, qui se sont mobilisés, et on a eu des échos dans la Basse et J'y suis, en général, plus généralement sur France Inter. Et vous vous souvenez, c'est ça qui est intéressant, comment le préfet Patrick Stefanini a déclaré alors à la presse qu'il ferait en sorte que Salima puisse obtenir un visa long séjour et revenir dans les plus brefs délais. Il avait évoqué un délai de 10 jours. Alors ça a calmé le jeu. On attend depuis. C'était à la mi-janvier, fin janvier. Donc voilà, le temps passe et Salima n'est toujours pas de retour. Aussi, Pascal Pascariello l'a appelé au Maroc pour savoir où elle en est. Suite dans les idées.
Allô ?
Oui. Bonjour Salima.
Bonjour Pascal.
Je venais aux nouvelles, là ça va faire combien de temps que vous avez été expulsée de France, Salima ?
Bah là ça va faire un mois.
Ça va faire un mois ?
Oui.
Et comment ça se passe ? Puisqu'a priori, le préfet Patrick Stefanini avait dit que justement, vous pourriez avoir, sous à peu près une dizaine de jours, un visa long séjour.
Bah là, je n'ai pas de réponse, je n'ai rien. Comme j'avais un rendez-vous hier, ils m'ont appelé au consulat pour que je me présente à 15h.
C'est-à-dire le consulat vous a appelé hier ?
Oui, consulat de France à Casablanca. Bah, quand je suis partie, ils m'ont dit non, on n'a rien, il n'y a pas de passeport, il n'y a rien.
Quand vous êtes arrivé là-bas, ils vous ont dit que finalement, ils n'avaient aucun papier pour vous.
Oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Moi, hier, j'étais contente, je croyais que je vais prendre mon visa et partir. Quand je suis arrivé là-bas, il n'y a pas de passeport, il n'y a rien. Je ne sais pas aujourd'hui aussi que ça va passer. Je ne sais pas, j'ai peur comme hier. Je sais pas, ils me disent, ouais, il n'y a pas votre passeport. Je m'inquiète un peu. Même s'ils m'appellent, ils me disent, venez chercher votre visa. Je ne vais pas croire comme hier.
Parce que hier, vous y avez cru.
Oui, hier, j'étais contente, j'ai dit, bon, je vais chercher mon fils à Jordan chez moi. En plus, le préfet, il a dit maximum 10 jours. Alors, ça va faire un mois. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je pense que je reste ici.
Là, vous êtes toujours dans votre famille d'accueil, votre famille est en France.
Oui, je ne sais pas après ce que je vais faire si je n'ai pas mon visa.
Vous en avez plus, vous avez pu avoir votre tante au téléphone ou votre sœur ?
Oui, je l'ai eu hier. Ma sœur, le matin, je croyais que j'aurais à avoir mon visa, mais... Même pas de passeport, ils font pas mon passeport. Je sais pas comment ça va passer aujourd'hui aussi. Peut-être comme hier.
Vous y allez à quelle heure aujourd'hui, Salima ?
À 15h.
À 15h. On s'appelle quand vous sortez ?
D'accord.
Pour savoir si vous avez eu vos papiers ?
D'accord, merci Pascal.
De rien, à tout à l'heure, Salima.
Voilà, on donnera des nouvelles au fur et à mesure de Salima et de cette histoire. Dans les jours qui viennent. Donc, on retrouve Botul, Jean-Baptiste Botul. Je rappelle que Botul n'est pas seulement un spécialiste de Kant, enfin de la vie sexuelle de Kant. Il a également écrit sur Landru, sur Landru comme un précurseur du féminisme, sur Nietzsche et le démon de midi, la métaphysique du mou, parmi quelques ouvrages de Botul. Quand je dis Botul a écrit, ben je fais une erreur parce que Botul n'a pas écrit. Botul, on va le découvrir, est un philosophe de l'oralité. Ils vont nous le dire, ils vont développer, ils vont tout nous expliquer. Et vous allez tout savoir, vous allez pouvoir briller dans les salons sans avoir besoin de manger du cirage. Vous savez ce que disait Coluche ? Il y a des gens qui, pour briller en société, mangeraient du cirage. Alors, ils sont autour des micros, Frédéric Pagès, Bertrand Rotet, Christophe Clerc, Jean-Hugues Lim, Hervé Le Tellier, Alexandrine Duin, que nous allons retrouver. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Merci pour toutes ces belles résistances au Honduras que la basse Jésus nous a fait partager et qui sont porteuses d'espoir. Les nôtres en France sont certes beaucoup plus modestes. La situation, heureusement, est moins explosive. Mais elles existent et c'est pourquoi le repère de Limoges invite ce mercredi 3 mars Gilles Lehmann, enseignant désobéisseur, suspendu quelques jours en janvier dernier pour refus des évaluations, mais qui n'a finalement pas été sanctionné. La désobéissance est aussi un moyen efficace de lutter. Venez en débattre avec nous, mercredi 3 mars à 18h30 au bar Le Gousset, rue des Combes, à Limoges.
Bonjour, c'est Jean-Luc des Hautes-Alpes. C'est pour signaler la tenue du café repère du Champsaur au bar L'Aquilon, mardi soir à 20h30. Le thème, ce sera un exposé sur Noam Chomsky. Voilà, venez nombreux nous rejoindre dans ces temps de frima. À plus.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec les amis de Jean-Baptiste Botulle. Botulle n'existe pas, je l'ai rencontré.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, alors moi j'ai une seule question à vous poser. Mais d'abord je vais vous présenter. À ma droite, Bertrand Rothe, qui est un botulien économiste. À ma droite, toujours Lim, qui est un comédien économiste.
À l'économie.
Christophe Clair, qui est un avocat botulien, on va dire comme ça.
Botulo-botulien.
Voilà. Hervé Letellier, qui est un oulipien botulien, ça va ?
Très bien.
Alexandrine, qui est une éditrice botulienne. Et puis, Frédéric Pagès, qui est
un journaliste...
Fameux, célèbre.
Maintenant, président.
Célèbre depuis peu de temps. Bon, la question est la suivante. Existe-t-il ou non ce Botulle ? Parce qu'on a prétendu qu'il n'existait pas, on a prétendu qu'il existe. Alors j'aimerais d'abord savoir à qui on a affaire. Qui va me dire s'il existe ou non, Frédéric Pagès ?
Alors c'est une question brutale. Frontale, bon, à laquelle nous autres botuliens ne répondons pas de façon binaire. Je veux dire, existe-t-il ou n'existe-t-il pas ? Dans l'affaire qui nous a agité ces deux dernières semaines, Bernard-Henri Lévy a commis plusieurs erreurs, au moins deux. D'abord, il a cru que Botulle existait, puisqu'il l'a cité sans aucune précaution, sans aucune réserve, dans son petit livre intitulé « De la guerre en philosophie ». Et ensuite, interrogé par les journalistes, de façon plus ou moins ironique, Bernard-Henri Lévy a dit qu'il avait été victime d'un canular. Donc il a prétendu que Botulle n'existait pas, mais sans réserve ni recul critique. Donc c'est deux fautes extrêmement graves pour un philosophe, de penser qu'il y a soit le non-être, soit l'être. La position botulienne est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe. Et en plus, et on va peut-être s'en apercevoir autour de cette table, il y a plusieurs courants de pensée au sein du mouvement botulien sur cette question.
Si on veut résumer la philosophie botulienne, il faudrait présenter l'alorquatisme. L'alorquatisme, c'est un concept inventé par Botulle, qui est « ou alors quoi ? On existe, on n'existe pas, ou alors il existe autre chose ». C'est ça l'alorquatisme. Systématiquement, l'existence précède l'essence, ou alors quoi ? Ou de peu. Du reste, il y a une variante qui est ou de peu. D'accord ? Botulle existe, n'existe pas. Ou s'il existe, c'est de très peu. Il existe dans les livres, il existe dans les textes de BHL, il existe dans un certain nombre de supports. D'accord ? Il existe dans les bibliothèques municipales, mais il existe aussi dans les bibliothèques universitaires. Donc effectivement, l'existence d'un philosophe, c'est aussi l'existence dans les bibliothèques universitaires. Certaines universités référencent Botulle. Donc effectivement, on ne peut pas dire que l'université se trompe, ou alors quoi ? Ou alors, jusqu'où se trompe-t-elle ? C'est ça les questions.
Ça c'est précis. Alors, Hervé, par exemple, Hervé Letellier, oui, non, Botulle, est-ce qu'il existe ?
Nous constatons ensemble qu'il y a bien un référencement de Botulle dans les universités, dans les bibliothèques. Alors, est-ce que la référence précède l'essence ? Est-ce que l'essence précède la référence et l'existence ? Nous n'avons pas de réponse là-dessus. Les botuliens ont une gradation dans la notion d'existence, qui est très importante et qui va du un peu, beaucoup, passionnément. Pour notre part, et en tout cas pour la mienne, Botulle existe passionnément. Et c'est déjà considérable, c'est-à-dire que ça lui assure une sorte de pérennité. Si d'autres personnes partagent la même passion, il leur est possible de poursuivre l'œuvre de Botulle, de poursuivre les recherches, de poursuivre la création, de poursuivre la dynamique botulienne, qui est une dynamique avant tout de création d'existence.
Christophe Clair.
Moi, je crois qu'il faut revenir à ce que Botulle lui-même disait. Il disait « J'ai l'impression de construire ma vie comme on bâtit une cathédrale. L'élégance des formes masque la prépondérance du vide. » Alors là, ça, c'est tout Botulle. C'est ce grand vide, et puis autour, cette forme qui le fait exister un petit peu comme une cathédrale. Donc, nous sommes un peu les bâtisseurs de cette pensée. Alors, il faut quand même rajouter qu'il a rajouté une seconde pensée. Après, il a dit « On est plus rigoureux en n'existant pas. » Et ça, je crois que c'est la deuxième ligne de force aussi de notre réflexion.
Lim ?
Bah moi, je suis scandalisé quoi, d'entendre ça, parce que vraiment, moi, je suis botulien de la première heure. Je suis absolument persuadé que Botulle existe, et même, on peut dire qu'il a toujours existé. Et comment on sait ce débat maintenant ? C'est complètement grotesque, parce que c'est vraiment glisser de la philosophie à la théologie. Déclarer l'inexistence de Botulle sans preuve, c'est comme déclarer l'inexistence de Dieu. sans preuve. Il faut pouvoir quand même amener des preuves matérielles. Dire, comment prouver que Dieu n'existe
pas? Alors là, vous adressez à BHL, lui demandant d'apporter indirectement, des preuves de l'inexistence
indirectement,
de Botul.
Indirectement, certes, je lance le débat. Je demande l'ouverture d'un vrai débat ou une table ronde avec les théologiens, les spécialistes de la chose religieuse, qu'on en discute tous ensemble. Dieu et Botul, existe-t-il ou pas? Et on pose le problème. Et on essaye d'en parler sérieusement.
En tous les cas, pour Alexandrine, Botul existe, puisque vous avez publié plusieurs bouquins. Hein ?
Il a déjà publié, effectivement, 4 ouvrages.
Voilà, parce que pour BHL, il n'y a que la vie sexuelle de Kant qui l'a intéressé, mais il aurait pu s'intéresser...
Il aurait pu s'intéresser à Landru.
Landru, précurseur du féminisme.
Absolument.
Il aurait pu s'intéresser à Nietzsche et le démon de midi.
Savoureux.
Il aurait pu s'intéresser à la métaphysique du mou.
Vous avez absolument raison.
Voilà.
D'ailleurs, d'autres se sont intéressés, puisque ces ouvrages sont traduits à travers le monde entier. On peut lire Botul en allemand, en castillan, en roman, en portugais, en norvégien, au Brésil. Et puis, là, on a l'œuvre, effectivement, qui se construit, puisque l'armoire de l'arrière, où les premières archives, les premiers textes, les premiers bouts de textes, puisque c'est aussi un fondamental chez Botul, c'est-à-dire qu'il est un philosophe de tradition orale, donc il n'a normalement rien laissé, sauf quelques petits bouts, si j'ose dire, dans cette fameuse armoire en bois fruitier, dans laquelle nos amis émérites de l'association des amis de Jean-Baptiste Botul, justement, œuvrent à reconstruire cette œuvre.
Il y a beaucoup de choses qui m'intriguent. Je voudrais savoir d'abord comment vous avez rencontré Botul. Frédéric Pagès, c'est vous le découvreur de Botul? Comment ça s'est passé, votre première rencontre?
C'est notre Saint-Paul à nous.
Oui, c'est toujours... je ne voudrais pas être trop personnel ni trop intime. C'est une expérience effectivement assez bouleversante. Ça se passait en 1995. Et je peux juste dire que j'avais réuni quelques amis à la Sorbonne pour ce qui s'appelait à l'époque le banquet du bac philo, pour perpétuer la tradition orale de la dispute philosophique, c'est de la disputatio, comme on disait en latin au Moyen-Âge, qui est un match de philo sur des sujets philosophiques qui occupaient beaucoup les universitaires pendant des siècles à la Sorbonne. Et j'ai trouvé dommage que cette tradition se perdent, et donc j'avais à l'époque, de moi-même, invité des avocats, des comédiens, quelques profs de philosophie, même à la Sorbonne, c'était la salle Louis-Liard, quelques-uns s'en rappellent, ça avait été enregistré par France Culture. À partir de là, je passe les détails, est venue l'idée de formaliser, d'organiser ce grand mouvement de tradition orale, cette renaissance en quelque sorte de la tradition orale en philosophie, et avec d'autres amis, dont certains sont autour de cette table. Le nom de Botul, comme ça, comme la langue de feu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, est descendu sur nos têtes. Et Jean-Baptiste Botul nous a été révélé, en quelque sorte, difficilement, puisque, comme on l'a dit, c'est un philosophe de tradition orale. Nous ne savons quasiment rien, ni de sa vie, ni de son œuvre.
Ah ben si, vous savez beaucoup de choses de sa vie.
Nous ne savons rien de certains, je veux dire, Daniel Mermet.
Vous voyez,
toute proposition... Mais le problème du botulisme est là, et on le touche du doigt, et merci de me donner l'occasion de le dire. Dès qu'une proposition botulienne soit de nature théorique, soit biographique, est avancée dans le mouvement botulien, automatiquement, des contestations, des critiques, des discussions jaillissent, car rien n'est établi de façon encore certaine. Nous sommes un mouvement jeune, il faut le dire, le botulisme a été freiné dans son expansion, parce que botulisme, en médecine, ça désigne une maladie grave, due à la toxine botulique, la charcuterie avariée, enfin les auditeurs savent de quoi on parle. Donc le botulisme, au sens philosophique, a été considéré comme une maladie. À ce titre, peu diffusé, peu propagé en France, car nous n'avions pas envie d'être accusés d'atteinte à la santé publique.
Alors vous étiez tous là ce jour-là, ou bien comment les uns et les autres vous êtes venus au botulisme, Hervé, par exemple, Hervé Le Tellier?
Je me souviens d'avoir été l'une des personnes qui participait à cette magnifique rencontre à la salle Louis-Liard, où j'avais passé le bac sur un sujet qui devait être « Faut-il perdre ses illusions ?»
C'était un sujet du bac. Hein.
C'était un sujet du bac. C'est vrai que le botulisme, l'esprit du botulisme planait sur les eaux, et c'était l'occasion de le revigorer, de lui donner du sens, de lui donner un contexte dans lequel il pouvait croître, multiplier, connaître une expansion qui aujourd'hui arrive par un hasard absolument invraisemblable à une sorte de petit sommet momentané que nous espérons dépasser dans les années qui viennent, mais qui n'a jamais été pour nous un canular. Il n'a jamais eu volonté de faire tomber qui que ce soit dans un trou. Ceux qui y sont tombés ont creusé le trou eux-mêmes. Quand j'entends, ou quand je lis dans des journaux féminins, que les botuliens tirent profit et chevauchent l'éléphant médiatique, qui est un philosophe télévisuel bien connu, je ricane. Pour l'instant, c'est plutôt, je m'excuse, le philosophe médiatique bien connu qui se chevauche l'éléphant qui est Botule. Car pour notre part, nous n'avons jamais à aucun moment espéré que qui que ce soit tombe dans un trou, puisque nous n'avons pas creusé de trou.
Christophe Clair, votre rencontre avec Botule.
Cette rencontre est une rencontre effectivement des origines. C'était avant le banquet du bac philo, et puis pendant le banquet où il y avait un succès extraordinaire, 800 personnes étaient venues, 400 dans la salle, 400 dehors, enfin c'était fascinant. Et à ce moment-là, on a vu le projet botulien s'incarner, c'est-à-dire cet homme qui toute sa vie a fait en sorte qu'il n'apparaisse nulle part, pour mieux apparaître après sa mort dans toute sa splendeur. Et là, on le voyait, c'était le premier moment de cette manifestation en gloire, ce qui est d'ailleurs le projet un petit peu contraire d'un philosophe médiatique bien connu, dont nous ne citerons pas le nom, qui passe toute sa vie à être en gloire pour mieux disparaître après.
Lim, rencontre avec Botule.
J'ai tout de suite été fasciné, moi, parce que quand même j'ai un projet personnel narcissique hypertrophié par mon métier. Et donc, ce personnage qui existe en n'existant pas m'a tout de suite, évidemment, interpellé personnellement. Hein. Je me suis identifié, n'est-ce pas ? Et je pense que il y a une piste encore, un travail à faire, vraiment à approfondir. Botule et l'inexistentialisme, je pense que c'est vraiment quelque chose, une direction qui m'interpelle, qui m'appelle. Je me sens attiré, je suis fasciné par l'inexistentialisme, ou plutôt le concept d'exister en n'existant pas. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous fascine tous.
Mais c'est clair.
Mais ce qui est clair n'a pas d'intérêt. À partir du moment où c'est clair, c'est pas la peine d'en parler. Et inversement, si je puis dire.
C'est ça, c'est ce que disait Wittgenstein. Je crois qu'il disait le contraire, mais c'est presque pareil.
C'est lui qui me cite. Hein. Bon, moi, m'a beaucoup piqué, et ça continue d'ailleurs. Donc voilà, et j'ai été appelé moi aussi. Je suis senti totalement habité maintenant par le personnage. Et je pense que quand je parle, je botulise, je deviens une sorte de Botule. J'incarne maintenant la personnalité, l'esprit de Botule. Et je me plais à ça, et je me complais. Je suis rempli de Botule.
De Botule.
Je m'en botulise moi-même, et c'est super.
Alors moi, j'aimerais qu'on évoque la vie de Botule. Il est né en 1896. Il est mort en 1947. Il a une vie relativement brève.
Exactement. Hein? Exactement.
Alors, on va évoquer quelques moments de sa vie, parce que vous avez travaillé à sa biographie. On va savoir un petit peu comment vous l'avez établie, cette biographie, Frédéric Palais. Sachant toujours que c'est un philosophe de tradition orale. Qu'est-ce que vous avez comme traces pour construire cette biographie ?
Eh bien, précisément des traces orales, pour commencer. Nous sommes allés sur le terrain, dans ces hautes corbières de Jean-Baptiste Botule. Nous avons interrogé les habitants. Et là, il faut dire que bon, tout le monde connaît Botule dans les hautes corbières. Je vous signale au passage, c'est un nom de famille qui est rarissime en France. Nous avons fait des recherches, on ne trouve pas de Botule, sauf à l'arrière. Donc déjà, une sorte de tradition populaire, on va dire, qui nous a permis, effectivement, par exemple, d'inaugurer des places Jean-Baptiste Botule. Dans le simple département de l'Aude, il y a 3 lieux publics, à l'arrière, mais aussi à Pomy, mais aussi à Sougraigne, dont les maires des élus de la République ont inauguré avec nous, au cours de ces dernières années, une place, une traverse et une promenade, Jean-Baptiste Botule. Mmh. Je verse ça au dossier pour ceux qui s'interrogent sur la non-existence prétendue de Botule. Pour revenir à votre question, Daniel Mermet, alors 1896, 1947, c'est les choses les plus certaines que nous possédons. Date de naissance, date de mort. Il s'est trouvé que l'association ayant été créée en 1996, nous avons pu fêter immédiatement le centenaire de la naissance de notre philosophe favori. C'était assez pratique. Et il se trouvait que, étant mort en 1947, l'année suivante, nous avons pu embrayer et fêter le 50e anniversaire de sa mort. Et après, nous nous sommes mis au travail.
Alors, vous êtes mis au travail. Par exemple, vous avez découvert que à 8 ans, en 1904, Botule rencontre Baden-Powell.
C'est très étonnant, oui. Enfin, vous savez, si on
reprend... Il y a beaucoup de choses étonnantes. Enfin, là, je suis 8 ans, paf.
Alors, il y a quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a une armoire. Il y a aussi quelque chose, il y a effectivement cette tradition orale, mais heureusement pour nous, il y a une armoire de l'arrière. La métaphysique du mou, par exemple, c'est le travail qu'a fait Jacques Caillard, qui est un grand botulien, qui est, à partir de l'armoire de l'arrière, à partir des écrits, parce qu'il existe quand même, il n'a jamais publié de son vivant. En revanche, il a écrit, c'est un philosophe, il prend des notes.
Ben, un philosophe oral ne publie pas.
Voilà, un philosophe oral ne publie pas, donc, mais il reste des traces.
Il publie après sa mort grâce à vous, mais de son vivant... Et...
Mais même ses ouvrages ne sont pas construits, c'est-à-dire qu'effectivement, après, il y a un travail très très long. Jacques Gaillard a passé plusieurs années à essayer de reconstruire la métaphysique du mou, parce qu'effectivement, c'est des morceaux de phrases, c'est des morceaux de cahiers, c'est effectivement... Donc, c'est même pas construit comme un livre, c'est-à-dire qu'il n'a même pas l'idée... de publier, c'est-à-dire ça ne l'occupe pas du tout. C'est là où c'est difficile un peu de reconstruire.
Le problème de Bénédicte de Bottuy, c'est que c'est un génie, il était génial, mais seulement quelques minutes par jour. Donc il avait comme ça des pensées, des fulgurances. Donc c'est une pensée par fragment. Donc certains de ses compagnons, ses amis, la famille, notaient parfois sur des petits morceaux de papier des dits et des non-dits, des pensées, des arrière-pensées. Mais seulement, voilà, c'est ça aussi, Bottuy, qu'il faut bien comprendre. Donc il y a une pensée comme ça qui évolue, c'est un esprit qui va, n'est-ce pas, qui va sans cesse.
Qui va rencontrer Marthe Richard, par exemple. Il a 17 ans, il rencontre Marthe Richard, qui se fera un nom
oui,
après...
Oui, la célèbre Marthe Richard, mais peut-être que les jeunes générations ont oublié qui était cette dame.
Mais oui, c'est indispensable de...
Voilà, c'est cette dame qui s'est fait une célébrité à la Libération. Elle était, non pas députée, comme on le dit souvent par erreur, elle était conseiller municipal de Paris. Elle était à l'origine de la loi dite Marthe Richard, qui a été ensuite votée par les députés, qui interdisait les maisons closes en France. Voyez. Et donc, elle était présentée par les Ligues de Vertu comme une héroïne, en fait.
Mais Bottuy l'avait connue bien avant.
Bien avant, et des travaux ont montré que la biographie de Marthe Richard est beaucoup moins vertueuse que l'image publique qu'elle a donnée à la Libération. C'est très intéressant. Elle a eu plusieurs vies, on va dire.
Mais Bottuy n'y est pour rien.
Dans la célébrité de Marthe Richard, c'est pas sûr. Il se peut que Bottuy, la rencontre avec Bottuy, ait mis Marthe Richard sur le droit chemin, comme on dit chez les bien-pensants.
Alors Bottuy est un drôle de patriote, parce qu'en 1914, alors que tout le monde va à Berlin, dit-on, eh bien Bottuy, lui, échappe à la mobilisation et se réfugie en Argentine, où il devient professeur de tango, chauffeur de taxi et psychanalyste bénévole.
Oui, il a inventé la taxithérapie, qui est un dispositif thérapeutique qui malheureusement n'a pas été ensuite tellement pratiqué. C'est-à-dire, il y a deux personnes, hein, le patient et le psychothérapeute. Le psychothérapeute, si on peut l'appeler comme ça, conduit. Donc il tourne le dos à la personne qu'il consulte et la consultation se fait en roulant. Et on paye à la fin, comme dans une cure. Voilà. Alors c'était une sorte de contrepoids à la psychanalyse qui naissait à la même époque et qui s'établissait. Bottuy n'a pas eu de chance, mais est-ce l'Argentine ? La taxithérapie n'a pas eu une grande postérité.
Quand on y pense, quand même, la notion de transfert est quand même très très forte dans le taxi.
Ouais.
Et on voit bien les liens forts entre la psychanalyse et le taxi. Je ne comprends pas que ça n'ait jamais été... Bon, il y avait aussi l'expérience du bobsleigh. Ouais. Il avait fait un petit peu de bobsleigh. Évidemment,
c'est quoi le bobsleigh ?
Le bobsleigh, nous sommes deux dans une luge qui descend une... Voilà. Et c'est comme...
Le bobsleigh.
Bobsleigh, excusez-moi. Vous prononcez le G, vous ?
Oui.
Il y a plusieurs écoles,
On peut dire luge, hein ?
Oui.
Voilà. Donc, c'est une technique dans laquelle on monte derrière le patient, qui s'exprime pendant les quelques kilomètres de descente. Ça va très très vite, hein. C'est comme ça que Freud a commencé, d'ailleurs.
En bobsleigh.
En bobsleigh, oui. En fait, après, il a trouvé que c'était plus confortable en divan, mais au début, il a commencé en bobsleigh.
Alors, Bottuy est un drôle de patriote, quand même.
On ne sait pas grand-chose sur le comportement de Bottuy pendant la guerre 39-45, qu'on appelle d'ailleurs en France la guerre 39-40, pour des raisons qui m'échappent. Donc, il y a une ambiguïté de l'engagement chez Bottuy, qui, à mon avis, est une sorte de réponse à l'engagement sartrien. Il faudrait qu'on creuse là-dessus. Pour l'instant, la correspondance entre Sartre et Bottuy, qui existe, n'est pas entièrement dépouillé. Donc on attend beaucoup de ceci.
Il y a une relation avec Sartre, mais enfin, il y a quand même... C'est
Beauvoir.
Il y a une liaison avec Beauvoir.
Il a une liaison avec
Beauvoir. Avec Beauvoir, oui.
Ça, vous le savez.
Oui, bien sûr. Ça, c'est du certitude.
Très bien.
Il y a des choses qui sont plus floues, mais voilà. On le sait trop peu.
Sans attendre la fin de la guerre, dès 1915, Bottuy rentre en France.
Oui, pour des raisons, là encore, assez mystérieuses. C'est son échec argentin, probablement, l'échec de la taxithérapie, l'échec de ses cours de tango.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échecs avant son existence.
Oui, on peut dire que c'est un philosophe de l'échec, ça c'est sûr. C'est sûr. Il a été beaucoup payé, en fait, vous avez cité des noms prestigieux, on a cité Sartre, Simone de Beauvoir, Baden-Powell, tout le monde a piqué dans Bottuy, c'est le problème du philosophe de tradition orale. Vous voyez, l'existence précède l'essence, qui a été présentée comme une maxime sartrienne, à l'origine c'est Bottuy qui dit l'existence précède l'essence, mais de peu, Sartre, avec son génie, enlève les derniers mots, et ça devient cette formule que tout le monde a gardée. Mais c'est une sorte de loser de la philosophie, c'est exact, abondamment repris, jamais cité.
En 1917, il rencontre Zapata.
Oui.
et Pancho Villa, mais aussi Léon Trotsky en 1917, et il le trouve étonnamment bronzé.
Botul trouve Trotsky bronzé.
Oui, c'est ce que je lis dans sa biographie.
Oui, 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 mais ça, bon, c'est des rencontres historiques. On n'a pas la transcription de ce qu'ils se sont dit, se sont-ils parlé même.
Mais comment vous savez ça, par exemple? Là, je vous interroge
alors,
tous.
Alors, comment
c'est, c'est vous les Botuliens?
Oui.
Quelle est votre source pour affirmer une chose pareille là?
Alors, il y a des écrits quand même. Là, le Quai d'Orsay donne des écrits. Alors, il faut juste raconter l'histoire de Clipperton en deux mots. C'est simple, c'est Clipperton, qui est un territoire français qui se trouve au large du Mexique, a été occupé par les Mexicains pendant quelques années. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, la France a demandé la restitution de l'atoll de Clipperton à la France. Et c'est Botul qui est allé négocier pour la France, et c'est à ce titre qu'il a rencontré Zapata. Donc ça, il existe, hein, si jamais on ne les a pas emmenés avec nous, on n'a pas emmené un représentant du Quai d'Orsay, mais le Quai d'Orsay a des écrits, parce qu'évidemment, il agit sur ordre du gouvernement de l'époque, il a des écrits, il va demander à Zapata qu'on restitue, Zapata est à l'époque le responsable du Mexique, en tout cas occupe une partie du Mexique, et il va demander à Zapata la restitution de Clipperton à la France. Voilà.
Vous avez établi qu'il était ami de Marcel Proust. Par contre, et il rate Joséphine Baker.
Oui, ça c'est vrai.
Il rate pas Marcel Proust. Il est quand même ami avec.
Il est ami avec Marcel Proust. Bon, là encore, sont des témoignages.
À l'époque, qui n'était pas ami de Marcel Proust.
C'est Joséphine Baker justement.
Et moi, je pense qu'il faut rendre compte de quelque chose dont on se rend plus compte du tout aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, le paysage intellectuel français est tout petit. Hein, donc effectivement, tout le monde se connaît. Donc Botul participe de cette vie intellectuelle sans être un personnage marquant de l'époque, mais il participe d'une vie intellectuelle qui regroupe une centaine de personnes à l'époque. Donc effectivement, tout le monde se croise.
Il présente c'est normal.
Il participe des salons littéraires.
Émilienne Duquelard.
Voilà.
Et là, vous avez justement encore le lien par rapport à l'éditeur, c'est-à-dire que les preuves que nous avons, par exemple pour la métaphysique du mou, ce sont la pièce 1, un ticket de train, Paris-Montargis, aller simple, deuxième classe, provenance SNCF, carton poinçonné, au verso, lettre ou le néant, ou alors quoi ? Commentaire, donc là, Jacques Gaillard, qui est d'ailleurs parti au sud de l'Argentine là, pour faire des recherches encore sur l'existence ou la non-existence ou l'inexistentialisme de Botul, commente « La datation fait problème. Hence we bore Botul in Wonderland, a tribute to French philosophical idiosyncrasy, New Haven 1963, donc il y a des travaux de recherche qui ont commencé bien avant, soutient vraisemblablement à tort que ce ticket est antérieur à la publication sartrienne. Il aurait été emprunté par Jean-Baptiste Botul à sa belle-sœur, née Poirot. » Texte archétypal, vraisemblablement écrit sous l'influence d'Héraclite. Donc on est dans un mouvement, un milieu littéraire où tout le monde se pique tout, et effectivement, là, sur des textes à trous comme celui-ci...
Je voulais juste dire, on a une formule entre nous, Botuliens, à propos des rencontres de Botul et de sa participation à la vie intellectuelle de la France, entre les deux guerres, c'est Botul, c'est celui qu'on a effacé de la photo.
Ah, voilà.
C'est celui qu'on a effacé.
Et votre œuvre, à vous, c'est de le remettre sur la photo.
Voilà. C'est-à-dire, quand on a, je ne sais pas, la photo du nouveau roman, la photo des surréalistes, etc., la photo des sartriens, Botul est là, mais il n'est plus sur la photo. Donc, c'est une sorte de trou noir, comme on dit en
astronomie. Mais qui l'a effacé ?
Mais on ne sait pas non plus. C'est des gens, il y a la jalousie, la négligence.
Il y a beaucoup participé lui-même. En choisissant l'oralité, il choisit de disparaître. Il a de la chance qu'il nous rencontre 40, 50 ans après ou 100 ans après sa mort. Mais il ne nous aurait pas rencontrés, Botul serait mort. Non. Botul n'aurait aucune existence.
Moi, je crois que c'est un projet philosophique en soi que de disparaître, de s'éteindre complètement avant de renaître. C'est ça le projet botulien très fort. C'est cette extinction de lui-même. Il fait bouillir une marmite comme ça, il met tout sous pression, il enterre le tout et il attend que quelque part, un jour, ça explose et on le voit aujourd'hui.
C'est son côté chiite, la religion chiite. C'est l'occultation du 12e imam.
Mais comment il exprimait sa philosophie? Alors, orale, d'accord. Ça veut dire quoi? Il se mettait à parler comme ça, et de philosophie, il faisait de la philosophie. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Parce que l'émission avance quand même, il faut qu'on précise les choses.
De notre avis, de ce qu'on croit retirer de nos différents travaux, il y a deux formes, disons, d'oralité. Il y a une oralité qu'on peut appeler déambulatoire, qui est celle qu'il a sans doute pratiquée avec beaucoup de sorbonnards, de normaliens, qui se sont inspirés de lui. C'est-à-dire des promenades au cours desquelles il avançait ses propres idées et qui ont été en fait l'occasion de pillages.
C'est lui qui pillait ou il a été pillé?
Pas du tout, il a été pillé. Ah. Donc des pillages conceptuels, des pillages thématiques, je pense que...
Exemple ?
bah, l'être le néant ou alors quoi ? Ça me paraît une évidence que c'est le genre de phrase qu'il a dû avoir lors d'une conversation avec soit Beauvoir, soit Sartre, soit des amis qui ont été ensuite, peut-être par un phénomène de téléphone arabe, écourtés lors de la répétition et qui ont donné naissance à une philosophie existentielle qui est en fait une réduction de la pensée botulienne. Puisque quand même, ça va quand même beaucoup plus loin de dire l'existence précède l'essence, mais de peu, que de dire l'existence précède l'essence, qui est une sorte de pensée husserlienne assez floue, quand même, très, très binaire, qui n'est pas du tout dans l'idée, disons, botulienne. Et puis, le deuxième contexte dans lequel pouvait s'exprimer son oralité, c'est dans le débat d'idées véritable, qui lui devait se faire lors des salons, et qui n'était pas simplement une simple promenade de santé. Alors, là-dessus, nous avons des traces, qui sont des traces souvent de seconde main. Des choses qu'on retrouve de ci, de là, dans des conversations, dans des correspondances.
Mais comment on peut cerner sa pensée ? Là, on a parlé d'existentialisme, etc. Le botulisme, enfin la pensée de Botul, ça peut se résumer.
C'est un humanisme.
C'est un humanisme. Le botulisme est un humanisme.
Bien sûr.
Oui. Mais il y a beaucoup d'humanisme.
Beaucoup. C'est ça qui est formidable. Dans l'humanisme. C'est qu'il y a beaucoup d'humanisme. Voilà.
Oui, c'est
Frédéric Pagès.
Je suis d'accord avec Hervé Letellier, quoique, bon, il y a des anti-humanistes dans le mouvement botulien, mais on ne va pas rentrer là-dedans. C'est un humanisme parce que Botul est un dispositif, ou dire aujourd'hui un logiciel, qui permet aux gens de se rencontrer, de s'agglutiner et de débattre. C'est le trou noir qui absorbe l'énergie et qui la renvoie. Là, c'est un contre-trou noir astronomique. Botul est quelque chose qui fait avancer et qui fait mettre les gens en mouvement par sa disparition même. Car il crée une sorte de stimulation intellectuelle assez impressionnante qui fait qu'au lieu que quelqu'un vienne vous dire « Botul a pensé cela, c'est comme ça qu'il faut comprendre Botul », on vient vous dire mais Botul, c'est quoi ? C'est, comme vous venez de le dire encore à l'instant, quel est le botulisme, etc. Et les gens qui ne sont pas justement de la philosophie scolaire, académique et professionnelle sont donc projetés dans une sorte de tourbillon intellectuel tout à fait propre, qui est la méthode botulienne, comme il y avait la méthode socratique, finalement.
Voilà. Et si philosopher, c'est douter de la philosophie, botuliser, c'est douter de Botul.
Voilà. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose à la magnifique démonstration d'Hervé. C'est effectivement, il y a eu aussi quelques conférences, on les oublie un petit peu, mais pourtant, on est là pour en parler. Il a eu des discours académiques qu'on a retrouvés. Ce sont des traductions, alors c'est pour ça qu'effectivement, on peut en discuter. La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, une traduction d'un texte qui a été écrit par un témoin d'une des conférences. Donc effectivement, ça aussi, c'est des traces qui nous reviennent.
Il faut savoir qu'il y a une autre source qui n'a pas encore été du tout exploitée, et je vais vous en donner un petit peu la primeur. Je suis avocat, comme vous le savez, et j'ai été saisi des intérêts de la mémoire de Jean-Baptiste Botul par le fils de Jean-Baptiste Botul, qui s'appelle Bernard Botul. Un monsieur charmant, un peu plus de 80 ans, qui est venu me voir et qui, évidemment, rit beaucoup de tout cet questionnement sur l'existence de son père. Et lui, évidemment, a énormément de choses à raconter.
Alors attendez, s'il a eu un fils, c'est qu'il a existé.
Alors, écoutez...
Ça, c'est la preuve.
Alors ça...
Ça, regardez...
Excusez-moi, mais il y a au moins un exemple dans l'histoire qui prouve bien que ce n'est pas une évidence.
Voilà. C'est une...
Il y a un précédent.
Il y a un précédent.
Mais oui, mais pour ce qui est de la vérité et du raisonnement logique, vous savez, le précédent qui peut infirmer la règle est quelque chose...
Précède, mais de peu.
Oui, voilà. Voilà. Alors, Bernard Botul, je crois, a beaucoup de choses à nous raconter. Il va commencer à me parler un petit peu de son père. Il faut en profiter, car il est un monsieur assez âgé. Jean-Baptiste Botul a eu une non-œuvre importante, et son fils Bernard Botul...
Une non-œuvre ?
Une non-œuvre, une non-œuvre de son visage. De son visage, de son visage, son expression n'apparaissait pas. Et puis, plus tard, cette forme, ce personnage apparaît. Mais de son vivant, c'était une non-œuvre. Et son fils, Bernard Botul, lui, est également dans une non-œuvre encore plus importante, parce que personne n'en avait encore entendu parler jusqu'à présent. Et ce qu'on espère, c'est que son fils, en fait, donne lieu à une explosion. Mais alors, on ne sera plus vivant, mais peut-être être dans 100 ans, dans 200 ans, son fils donnera quelque chose d'encore plus extraordinaire, car il a été instruit de la façon de procéder de son père. Alors je crois qu'il y a quelque chose d'important.
Hervé Letellier.
Est-ce qu'on peut revenir peut-être quelques instants sur l'idée forte dont parle notre camarade Frédéric Pagès, c'est président. Il parle d'un lien qui finalement nous unit, d'une sorte de trou noir que serait Botul, autour duquel, par un phénomène inversé, une sorte de fontaine blanche par laquelle jaillirait des idées.
Le trou noir et la fontaine blanche.
C'est l'inverse. L'inverse du trou noir, c'est la fontaine blanche. Donc on aurait un phénomène quand même d'inversion dans lequel il y aurait gravitation, phénomène de naissance d'idées de manière inversée. Il n'y a pas de témoin de Botul, si vous voulez, comme il existe des témoins de Jéhovah. Nous sommes, bien qu'il y ait un lien entre nous, on n'a jamais trouvé autour du mouvement Botul de témoins de Botul. Et ceci est intéressant. Nous sommes les amis de Jean-Baptiste Botul, mais pas ses témoins. Je crois que cette notion est importante. C'est important qu'il n'y ait pas eu de témoins. Et finalement, ça tombe assez bien que le mouvement soit né 50 ans après sa mort, à un moment où le fait de trouver des témoins devient plus difficile. Ça facilite d'une certaine façon le désintéressement et l'objectivité par rapport aux travaux de Botul. C'est un peu comme les livres. Il est toujours préférable de ne pas les lire pour en parler. Botul, c'est un petit peu comme ça. Il y a un avantage presque de nature évolutionniste à pouvoir parler d'une théorie avec laquelle on n'avait pas eu de contact pendant très longtemps.
Moi, je voudrais qu'on évoque un peu les mœurs de Botul, parce que dans la biographie que vous publiez, on apprend quand même que fin 1936, début 1937, Botul, pendant quelques mois, exerce le métier de chauffeur de taxi. On en a déjà parlé. Il était chauffeur de taxi déjà en Argentine, c'est bien ça.
C'est vrai.
Donc ça revient dans sa biographie.
C'est vrai.
Et en dispensant des leçons de philosophie à ses clients pendant ses courses, on en a évoqué, et il est accusé de détournement de mineurs sur la personne d'Héloïse Poisson, 18 ans, qu'il avait chargé à Neuilly-sur-Seine et déchargé devant la cour Désir, rue de Rennes. Voilà. Voilà. Alors ça, je voudrais bien qu'on évoque un petit peu ça, parce que on a beau, voilà, il y a quand même quelque chose d'un peu gênant, là, dans sa biographie. Enfin, elle avait 18 ans, mais à l'époque...
Oui, oui. Le cours Désir était le cours qui était fréquenté par la jeune Simone de Beauvoir. D'ailleurs, c'est un cours qui n'existe plus, à ma connaissance, situé du côté de Saint-Germain-des-Prés. Donc ça, c'est avéré, c'est historique, il n'y a aucun problème. Effectivement, Botul a connu ce que il faut bien le dire, on peut le dire ici entre nous, beaucoup de professeurs de philosophie ont connu dans leur classe de terminale, c'est-à-dire la tentation, voire le passage à l'acte de la chaire lycéenne.
Eh bien, c'est le démon de midi de Nietzsche.
C'est le démon de midi de Nietzsche, c'est-à-dire l'adulte supposé savoir qui fascine la jeune élève, n'est-ce pas? Alors, bon, il s'est passé un certain nombre de choses entre Botul et cette jeune Héloïse, qui rappelle effectivement quelque chose d'Abélard et d'Héloïse. C'est assez fascinant. Abélard, le philosophe confirmé, qui séduit sa jeune élève Héloïse et à qui il arrive ensuite des tas de malheurs. Et c'était une sale affaire, il faut bien le dire, vous avez parlé de mœurs. Botul est accusé de détournement de mineurs, à l'époque c'était vraiment très très grave, il doit se défendre. Il est convoqué, effectivement, d'abord par l'ordre professionnel des taxis, devant une commission qui existe toujours, d'ailleurs. Et donc, il prononce...
Il faut rappeler comment commence l'affaire. Jean-Baptiste Botul est donc chauffeur de taxi, et à l'arrière se pose une jeune fille qui lui dit « Cours, désir ». Donc, avec tout ce que ça pouvait suggérer. Et donc, voilà, je t'en prie, Frédéric. Mais
voilà, il fallait rappeler
sans
ça.
Sans compter le côté lacanien... Elle monte à l'arrière, alors que lui est né à l'arrière. Enfin, c'est très lourd pour lui.
Le signifiant est chargé, comme on dit chez les taxis, parfois. Voilà. Et ensuite, alors il veut montrer que le démon de midi, pour reprendre cette expression proverbiale, qui agiterait le quadragénaire, le quinquagénaire, je ne sais pas, avide de chair féminine fraîche, est en fait une sorte de tradition féminine, et que lui s'en est prémuni depuis longtemps en méditant sur Nietzsche, qui a vécu quelque chose de semblable avec la jeune Louis-Andréa Salomé. Vous voyez que les références sont multiples. Bon, on connaît tous les amours de ratés, il faut bien le dire, entre Nietzsche et cette jeune russe allemande, Louis-Andréa Salomé, dont il était amoureux et qui l'a foudroyé. Botul sait qu'un amour de jeunesse avec une jeunesse peut gâcher son œuvre philosophique, je résume à grands traits, et surtout pas quand on est philosophe, s'engager dans cette voie, car c'est la mort du concept. Oui. Donc il explique tout ça, il reprend ce que c'est que le démon de midi pour un philosophe. C'est une très vieille histoire. Le démon de midi est créé par les pères de l'Église quelques siècles, 2e-3e siècle après Jésus-Christ.
Et l'engagement politique de Botul dans tout ça, il a eu des relations avec Sartre, qui était un philosophe engagé. Est-ce qu'on peut dire que Botul était engagé lui aussi, ou quelqu'un a des choses à dire là-dessus parmi les botuliens qui nous entourent?
Moi, j'exprime un courant dégagé, si vous voulez, au sein du mouvement botulien, mais bon, ça se discute. Moi, je pense que Botul était rétif à toute idée d'engagement, d'un bord ou de l'autre. C'était un philosophe dégagé, oui. Donc, c'était ce qui marquait son anti-sartrisme, en fait. C'est ça. Donc, il meurt en 47, alors que triomphe en France et dans le monde aussi l'idée, grâce à Jean-Paul Sartre, ou à cause de Jean-Paul Sartre, qu'un vrai philosophe digne de ce nom doit s'engager. Donc, c'est son côté peut-être anti-moderne. Voilà.
Du reste à la question sur la mort de Jean-Baptiste Botul, on ne sait pas si c'est un suicide ou une mort naturelle. Donc effectivement, ça pourrait être un suicide face justement à cet engagement ou à cette montée de l'engagement?
Enfin, avant de mourir, quand même, en 1944, il participe à la libération de l'Alsace avec André Malraux. Alors, Botul est aide-de-camp, mais enfin, c'est quand même prestigieux. Là, c'est pas celui qui, en 1914, a fui la France pour aller en Argentine. Là, il est sur la photo, il est dans l'histoire.
C'est vrai.
C'est intéressant, parce que c'est un petit peu... ajouter l'inexistence au mythe, si vous voulez. Et donc, la coordination des deux idées fait quelque chose d'assez détonnant, et moi, je trouve ça très beau. Sur l'engagement, je crois qu'on ne l'a pas assez dit, mais il a prononcé cette phrase extraordinaire qui était « L'engagement, c'est bon pour les débuts de parties de football ». Vous voyez, c'est ça, sa vision de l'engagement. Alors, c'est pas très sartrien à l'époque.
Alors, il y a cette date, il meurt en 1947, on va revenir sur sa mort... Mais il y a 1945, où il y a ce voyage au Paraguay, et il donne une conférence à Nueva Königsberg, notamment sur la vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Et puis, cette même année, il se brouille avec Jean Cocteau.
Oui, c'est vrai, oui. Il se brouille alors qu'on ne savait pas qu'il l'avait rencontré. Ça, c'est un mystère de plus.
Bah oui, mais pour qu'il se brouille, il faut qu'il l'ait rencontré.
Oui, c'est pas évident. Ça se discute.
C'est pas évident. C'est un peu simple.
C'est un peu simple. C'est un peu rapide.
Une réduction de la pensée botulienne.
Par exemple, certains rompent avec Dieu sans l'avoir jamais rencontré.
On peut parler d'une pré-brouille, enfin quelque chose de plus abstrait.
C'est là-dessus que notre philosophe national, Bernard-Henri Lévy, a dérapé. C'est sur cette histoire-là, non?
C'est, notamment, effectivement, oui. Mais bon, c'est tout à son honneur, je veux dire, c'est signe d'une grande fraîcheur d'âme, finalement, une certaine naïveté. C'est-à-dire que le fait que des émigrés allemands se retrouvent au Paraguay après la Seconde Guerre mondiale...
C'est vraisemblable.
C'est tout à fait vraisemblable. Ça n'a pas spécialement alerté Bernard-Henri Lévy. Bon,
il y a des très très fortes communautés allemandes dans toute l'Amérique latine qui se sont constituées de réfugiés nazis qui ont fui. Donc,
très engagés.
Enfin, on ne sait pas si tu parles de nazis, mais c'est celle de Nueva Königsberg. On ne savait pas si c'était nazis.
Oui, mais il existe des communautés allemandes.
Nazis, oui, bien sûr.
Nazis qui sont constituées à ce moment-là, voilà, au Chili, entre autres.
Mais bon, ça n'a pas effectivement interrogé plus que ça Bernard-Henri Lévy. Ces mystérieuses conférences au fond du Paraguay devant un public de néo-kantiens qui voulaient vivre comme Kant, ce qui n'est pas facile en 1946, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui avait reproduit une partie de la ville de Königsberg, qui faisait la même promenade rituelle que Emmanuel Kant, et qui tout d'un coup se trouve confronté au problème de la reproduction de leur propre communauté, puisque Kant étant chaste, être néo-kantien, c'est se priver, si j'ose dire, de faire des petits kantiens. Donc, ils ont entendu parler de Botul qui avait effectivement lu Kant et médité Kant, et ils lui demandent son aide, finalement. Comment dénouer cette contradiction entre être kantien et vouloir perpétuer une colonie kantienne?
Alors, avant de mourir en 1947, quelques mois auparavant, il se brouille avec tout le monde. On croit la biographie que vous avez établie.
Oui.
Il se brouille avec Jean-Paul Sartre, avec Joséphine Baker... qu'il n'avait pas rencontré, mais enfin bon, il se brouille avec elle, avec Simone de Beauvoir, avec laquelle il a eu une liaison, avec Gaston Bachelard, avec Maurice Merleau-Ponty, avec Marguerite Duras, avec André Gide, avec André Malraux, avec Rédaker,
avec Yvan Audouard... Avec André Breton, paraît-il.
Ouais, ouais.
Et il se fâche avec tout le monde, ce Botul. Pourquoi? Comment vous expliquez ce phénomène?
Il se brouille d'abord avec lui-même, c'est très simple. C'est toute sa dynamique interne qui s'effondre sur elle-même à cette époque. Et on le voit dans ce mouvement, ça éclabousse du coup ses amis, cet effondrement, et il en résulte cette situation où non seulement il se brouille avec eux, mais en plus ceux qui étaient ses amis l'oublieront.
Ouais.
Et c'est le début de son épopée.
Puis ça fait peut-être partie d'une technique de brouillage, justement, en ce qui concerne sa vie posthume et sa postérité. Je pense que ça fait partie d'une sorte de stratégie philosophique.
Et là, il se retire dans l'Aude.
Il se retire. Il était paniqué par l'idée d'avoir des disciples. Protégez-moi de mes disciples.
Mais vous considérez comme...
Ah non,
vous
avez... Vous non, non, pas... comme l'a dit très bien Hervé Le Tellier, nous ne sommes pas les témoins de Botul.
Comme les témoins, et les témoins, c'est pas la même chose.
Non, c'est tout à fait différent. Bon, il faudra peut-être une autre émission, mais on
ah
a...
Ah oui, ça, oui.
Au moins une. Je crois qu'il y a un signe très fort. C'est quand même, un peu avant de mourir, il hésite entre l'Aude et les Corbières. Il dit, les Corbières, c'est ici. Il préfère ne pas y aller, il dit « je préfère aller dans l'Aude, là ». Et ce sont ses derniers mots connus.
Et oui. Il meurt comment? Alors Bertrand Rothet a déjà évoqué sa fin.
Alors,
Christophe Clair.
Eh bien, c'est une fin un peu tragique et ridicule. Il veut se suicider, il se rate, il se tire une balle dans le pied et il mourra d'une gangrène du pied.
Il y a plusieurs hypothèses. C'est-à-dire que son père était maréchal Ferrand, donc il y avait une enclume dans son atelier, l'atelier de son père, et il a tenté de s'écraser la tête avec une enclume par un astucieux dispositif de poulie. Il faudra revenir au thème de l'enclume qui est extrêmement important dans le botulisme.
Voilà, je crois qu'on a essayé de cerner le personnage, Jean-Baptiste Botule, le botulisme, et maintenant il vous arrive une aventure tout à fait singulière. C'est que jusque-là, vous étiez en petit comité, assez discret, hein, on n'était pas... Et brusquement, vous voilà célèbre, vous voilà projeté sous les feux de l'actualité. Alors, qu'est-ce que ça change? Comment vous vivez ça? C'est que ça met un choc formidable, Frédéric Paget.
Non,
vous êtes
pas
cité
du tout.
Partout.
Non. Ça ne change rien, nous avons notre voix.
Vous êtes resté simple.
Oui, nous restons simples. Et nous n'y sommes pour rien, parce que, encore une fois, puisque vous parlez, il me semble-t-il, de l'affaire Bernard-Henri Lévy, ce que d'autres ont appelé le Botulgate, dans certains journaux, nous n'avons rien fait, en fait, c'est un non-vouloir, ça c'est très botulien aussi, c'est-à-dire que nous n'avons pas tendu de piège, ni à Bernard-Henri Lévy, ni à quiconque, ça a été dit, et d'autre part, nous n'avons pas fait de publicité sur cette affaire. Et là aussi, il y a quelque chose de très botulien, je vous rappelle que le botulisme est médicalement une maladie, c'est BHC lui-même qui était le vecteur du botulisme dans cet aspect. Car partout où il allait, il disait, mais bon, botule, effectivement, il devait s'expliquer sur botule. La réputation, la renommée de BHL étant mondiale, effectivement, botule aujourd'hui est cité mondialement. Nous n'en sommes pas mécontents, c'est pas ce que je veux dire, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas contents non plus. Je veux dire que, ni contents, ni mécontents, nous avançons sur cette ligne de
traite. Oui, mais vous devez répondre à ces sollicitations.
Là, c'est, oui, c'est le contrat, évidemment, avoir une présence médiatique, de répondre à des questions que, légitimement, des journaux se posent sur qui est Botule, ce que nous faisons ici. Ben, ça nous contraint d'une certaine façon à apparaître, mais bon, ce n'est pas très grave. Il y a une phrase de Botule qui dit que la délinquance est la forme la plus démocratique de l'aventure. Je pense qu'on pourrait trouver un Botulème qui parlerait de l'apparition médiatique et de la forme la plus démocratique de la philosophie.
On vous interpelle du monde entier pour vous demander des précisions
bien
sur
sûr.
Botule
bien
et
sûr.
Des exemples.
Oui, bah écoutez, hier, j'ai eu l'honneur d'être interviewé par une télévision portugaise. Le New York Times a fait un article. La presse italienne, deux ou trois journaux nous ont fait des interviews. Voilà. Certains prétendent que Bernard-Henri Lévy ayant agacé beaucoup de monde ces 30 dernières années en France et à l'étranger, c'est une sorte de retour comme ça de manivelle. Moi, je ne rentrerai pas dans ce genre de calcul.
Non, mais moi, j'aimerais quand même dire une chose. C'est qu'on parle beaucoup de BHL, mais il y a quand même beaucoup de sujets plus intéressants. Je ne sais pas, moi, je connais une excellente recette de terrino lapin. Je peux vous la donner, si vous voulez.
Allons-y.
Hein, bah alors, vous préparez un lapin, hein, vous le coupez en tranches, vous coupez des tranches d'aubergine, vous mettez un petit peu de fenugrec, hein, le foin grec, c'est délicieux. Vous entourez de lard, vous le mettez au four 20 minutes et c'est excellent.
Faut saler ou pas?
Non, un petit peu, à peine.
Ok, merci. Voilà, et merci à Bernard-Henri Lévy qui non seulement a donné son sens plein au mot « cuistre », mais qui en plus nous a fait découvrir Jean-Baptiste Botule. Merci à tous. Toutes les précisions, les livres des auteurs avec qui nous étions sont sur le site de labas.org et ainsi que sur Labas, si j'y suis, sur le site de France Inter. Alain Gadan et Gilles Gaillard étaient à la technique aujourd'hui. Goyenne Guyenne et Raphaël Mouter ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebot. Et Céline Rouzet attend vos messages sur le répondeur de Labas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il est 16h45 sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base. Si j'y suis, nous retournons au Honduras pour la suite du voyage. Je vous laisse pour les infos avec Jérôme Ostermann. Salut.
Plus de 45 000 hectares de terres agricoles ont été inondés d'eau salée suite à la tempête Xynthia, des eaux désormais stagnantes en Vendée et en Charente-Maritime. Plusieurs milliers de bovins, moutons et chèvres ont dû être déplacés depuis dimanche. De nombreux cadavres d'animaux ont aussi été retrouvés. Les opérations de pompage se poursuivent également cet après-midi. Du coup, le niveau de l'eau a baissé, ce qui facilite le travail des secours, comme nous l'explique le capitaine Heure de la Sécurité civile.
Les pompages facilitent notre travail puisque le niveau d'eau baisse et donc nos actions se facilitent. Les actions de pompage qui ont été entreprises depuis hier nous ont fait baisser le niveau d'environ 20 cm. Ce qui change les choses, oui, parce que beaucoup de zones qui étaient immergées de manière relativement profonde sont des zones quasiment accessibles et les zones qui étaient très profondes deviennent presque praticables en marchant.
Combien de temps pour revenir à la normale, si tant est qu'on puisse parler de normale?
Les estimations en termes de pompage sont de 2 jours à 3 jours.
Et déjà cet après-midi, des sinistrés commencent à retourner dans leur maison pour constater les dégâts. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour envoyer leur dossier de demande d'indemnisation à leur assureur. Selon un dernier bilan, la tempête Xynthia a fait 52 morts en France. Au Chili, victime d'un tremblement de terre le week-end dernier, l'aide internationale commence à arriver aujourd'hui. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton est attendue à Santiago avec 20 téléphones satellitaire dans ses valises. Cette aide-là semble dérisoire, mais répond pourtant à un besoin urgent, les télécommunications ayant été très endommagées. 14 000 soldats ont aussi été déployés dans les régions détruites et dans 4 villes placées sous couvre-feu pour éviter les pillages. La Commission européenne dit oui à la patate OGM. Il s'agit d'une pomme de terre génétiquement modifiée du groupe allemand BASF, dont la mise en culture a été autorisée. Une très mauvaise nouvelle, selon la secrétaire nationale des Vert, Cécile Duflot, qui dénonce la précipitation de la Commission européenne, alors qu'aucune évaluation précise des risques n'a été menée. Et puis, le capitaine d'un cargo poursuivi pour pollution volontaire a été condamné aujourd'hui à une amende d'€1 million par le tribunal correctionnel de Brest. 90% de l'amende sera à la charge de l'armateur grec de ce bateau libérien, piloté par un capitaine russe. Le Matterhorn avait été surpris dans le rail d'Ouessant en mai dernier, avec dans son sillage une pollution par hydrocarbures de 22 km de long.
N'essayez pas de régler le volume de votre récepteur.
Le parking de nuit, une heure de stationnement littéraire et musical pour lecteurs à grandes oreilles, croqueurs de bons disques et mélancoliques à moteur.
Vous saviez où vous alliez ?
La région est grande et je cherchais un endroit calme pour me reposer.
Un espace réservé aux voitures propres, aux vélos jaunes et aux planches à repasser. Un endroit bien au frais, là où se loge la tendresse de l'innocent et l'impertinence du fou.
Parking de nuit, vendredi, 21h-22h, France Inter.
France Inter, partenaire de la pièce Les Justes d'Albert Camus, mise en scène par Stanislas Nordet, du 2 au 13 mars au Théâtre National de Bretagne et du 19 mars au 23 avril à la Colline Théâtre National à Paris. Qu'importe que tu ne sois pas un justicier, si justice est faite par des assassins. Retrouvez Les Justes dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
16h04, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon sur France Inter. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jérôme.
Carrefour de l'Odéon.
J'ai le très grand plaisir, le très grand honneur, je dirais même, de recevoir Jean-Philippe Collard, superbe pianiste, et Patrick Poivre d'Arvor, écrivain, journaliste, metteur en scène maintenant, on va en parler tout à l'heure. C'est assez étonnant, mais bon, c'est un homme complet, on le sait, et normalement je devrais laisser ma place à Patrick, parce qu'on sait que c'est un intervieweur de première ligne, de premier niveau, mais c'est gentil d'être venu quand même tout à fait simplement pour expliquer votre passion, je crois, de Frédéric Chopin et puis de la poésie, Patrick, parce que vous avez écrit d'abord un livre qui est mon livre de chevet, et puis Voici des fleurs chez Le Cherche Midi, d'après Verlaine, le titre est emprunté à Verlaine, et puis vous avez donné hier, c'est pour ça que vous êtes peut-être un peu fatigué, enfin merci d'être là quand même, un spectacle tout près d'ici au Théâtre du Ranelagh, pour une bonne cause, pour la chirurgie cardiaque dédiée aux enfants, et puis il y avait à la fois des poésies et de la musique. Alors comme vous n'êtes jamais venu en cette émission, je vous laisse la parole le premier.
Eh bien écoutez, merci de nous recevoir d'abord, je suis moins fatigué que Jean-Philippe, qui a beaucoup donné, parce qu'il a exécuté une quinzaine de belles pièces, oui. Et quand je dis exécuter, c'est dans Interpréter, le très beau sens du terme. Hein, voilà. Et c'était, mais il a beaucoup donné de lui-même, et on était évidemment très émus, parce que c'était le 200e anniversaire, jour pour jour, de sa naissance. Donc pouvoir jouer dans un salon de musique au Ranelagh, devant 300-400 personnes, c'était très, très émouvant. Et on a alterné donc ces pièces musicales, toutes donc de Chopin, avec certaines des poésies que j'ai choisies dans mon anthologie, justement, de mes poèmes préférés. Et à chaque fois, on a essayé de trouver des vraies correspondances, comme le disait Baudelaire, entre les thèmes de Chopin, ses rythmes, ses moments, les moments de sa vie, et puis également ce qui pouvait se dire de tout temps, pas forcément du temps de Chopin, et s'écrire par la poésie. Alors, on remonte à Ronsard et on va jusqu'à André Velter, qui a écrit un poème il y a 2 ans, qu'on a utilisé hier. Et à chaque fois, c'était très beau, parce qu'il y avait, cet écho, voilà, cet écho des deux, du verbe et de la note. Et puis, par ailleurs, on avait essayé de construire un petit spectacle avec l'histoire, au fond, l'histoire d'un amour, vous savez, les premiers émois, les moments un petit peu de tressaillement, et puis alors après la passion amoureuse, puis après les moments où ça commence à plus du tout aller, là, la jalousie, et puis la fin dramatique, tout ça. Bon, voilà, tout ça écrit par Jean-Michel Vergège, donc c'était assez... Je crois qu'il se passait quelque chose, voilà.
Oui, genre, c'est un joli moment. Vous allez le retrouver à l'an, parce que vous allez redonner le spectacle, sinon on parlerait uniquement d'un spectacle déjà passé, alors pour les personnes qui sont venues hier, c'est formidable, mais ça va se redonner à l'an, le 2 avril, si je ne m'abuse. Et donc, c'est Vernège qui est organiste, d'ailleurs. Il est musicien, et puis lui aussi, il a mis en espace. Alors, Jean-Philippe, bah là, vous êtes évidemment musicien, on se connaît depuis très longtemps. Et qu'est-ce que ça vous fait de jouer, finalement, entre les vers de certains poètes, puisque vous vous souvenez de Victor Hugo, je crois qu'il disait défense de déposer de la musique le long de mes vers. Là, non, là, il n'y a pas eu de gêne réciproque, non, pas du tout.
Non, mais il n'y a pas de gêne, mais bonjour tout d'abord, il n'y a bonjour, pas de gêne, bonjour. Mais il y a 10 ans, une faculté d'adaptation qui est tout à fait nécessaire, parce que le rythme n'a rien à voir avec un récital, et il faut être concentré sur des petits modules déjà, parce que les pièces sont relativement courtes, on s'en va pas au gré d'une sonate comme ça, Patrick ne me laisserait jamais jouer les 4 mouvements d'une sonate sans intervenir, et il faut donc être tout le temps en phase de concentration, en phase physique préparée, et puis surtout ne pas se laisser embarquer par la navigation des mots, puisque bien qu'elle soit forte, inspirante, il faut quand même rester près de son outil de travail et essayer de ne pas en sortir. Donc c'est toute une aventure qui est complètement différente, mais c'est une manière aussi de traduire la musique de Chopin, de